Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bien, des experts au niveau international préconisent le transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad, menacé de disparition, après avoir perdu 90% de sa superficie en 40 ans. Alors ces eaux doivent passer par un canal artificiel de 2600 km. Alors quels sont les préalables à réunir avant la réalisation d'un tel projet? D'abord, est-ce possible? Alors que peuvent être les répercussions de ce transfert sur l'écologie halieutique et aquatique de la rivière Oubangui? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions avec notre invité, Monsieur François Kalwele Voula. Voilà, François Kalwele Voula. Il est le président de l'ARD CIREP, qui veut dire tout simplement Centre International des Recherches, d'Études et Prévention sur les Catastrophes Naturelles liées au changement climatique. Encore une fois, Monsieur François, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons de ce projet de transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Alors, quels sont les préalables à réunir avant la réalisation d'un tel projet? Dernièrement, le président Félix Tshisekedi était au Rwanda et cette question lui a été également posée. Alors, dites-nous, c'est d'abord possible de réaliser un tel projet?
Bien, merci infiniment de m'accorder cette opportunité. Primo, pour apporter l'actualité. Je vais tout de suite vous dire que le projet de transfert des eaux de l'Oubangui vers le lac Tchad a été enterré lors de la réunion d'Abuja. Ça veut dire quoi? Au mois d'octobre 2017, nous avons participé à l'atelier sur la note conceptuelle de la conférence internationale sur le lac Tchad. Et là, c'était pour valider les études réalisées par la firme CIMA, qui est une firme canadienne, qui a justement proposé qu'on puisse amener les eaux par un canal à ciel ouvert. Lors de cet atelier à Abuja, à N'Djamena, nous avons eu l'avantage de pouvoir présenter la préoccupation qui est la nôtre, qui est du reste partagée par le peuple congolais, parce que notre projet pour aller tout droit au but a été une fois présenté au niveau de l'Assemblée nationale et nous avons été honorés par le dédicace de son Excellence Vital Kamerhe qui était président de l'Assemblée nationale à ce moment-là. La préoccupation pour nous au niveau de ARD CIREP, c'est que la rivière Oubangui et la confluence entre la rivière Kibali et Darfour qui vient du Soudan, qui traverse la Centrafrique, serpente toute la zone minière nord de notre pays. Amener les eaux par un canal à ciel ouvert, ça veut dire que tous les alluvions, donc tout ce que nous avons or, diamant, dans le sable, pour parler terre à terre, dans le sable
ça
contenu dans la rivière,
ça sera charrié par ces eaux.
Et ça va traverser la frontière sans payer la douane. C'est pas normal.
Pour se retrouver au Tchad.
Voilà. Deuxièmement, vous savez pourquoi nos chefs coutumiers ainsi que nos rois étaient enterrés la nuit? C'est
pourquoi?
Simplement parce que on les enterre dans les lits des rivières. Alors, quand on doit dévier les eaux de la rivière Oubangui pour amener ça à ciel ouvert par un canal, pas seulement, comme nous venons de le dire, nos richesses, mais on risque de se retrouver avec les eaux de nos ancêtres, de nos rois, au lac Tchad. Pour nous, c'est une profanation. Troisième élément, la rivière Oubangui est l'affluent principal du fleuve Congo. Déjà, nous sommes en train de parler en termes de déficit au niveau du lac Tchad, parce qu'il y a effectivement l'avancée du désert qui nous prend en étau. Le sud, Kalahari, le nord, Sahara, à une vitesse de 5 km par an. Eux, ils ont perdu 90% des eaux au niveau du lac, mais la rivière Oubangui était navigable 12 mois sur 12 en 1972.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
C'est 3 mois seulement et encore. Ça veut dire nous n'avons plus assez d'eau au niveau de la rivière Oubangui. Nous amputer de la petite quantité que nous avons pour non seulement nous nourrir parce que nous consommons du poisson, l'eau, c'est la vie, était pour nous amputer d'une bonne quantité par rapport aux besoins de notre population.
Mais est-ce qu'il y a déjà eu des études qui ont été menées à ce sujet, Monsieur François?
Les études qui étaient menées avec CIMA, justement au niveau de N'Djamena, nous avons prouvé, à partir de notre pré-étude et avec ces éléments-là, pour dire que ce n'était pas acceptable. Par contre, ce que nous avons proposé est que nous puissions capter les eaux par pipeline au niveau un tout petit peu avant l'embouchure. Pour
vers Banana.
Oui, donc au niveau de marécage de Sikila, si vous voulez. Hein, juste après le barrage d'Inga. Pour être compris par tout le monde, si vous voulez. Et à ce niveau-là, nous allons résoudre non seulement le problème qui se pose au niveau de Sahel, mais aussi le problème qui se pose au niveau du Sud. Parce que l'Afrique du Sud aujourd'hui a métropole malheureusement primée dans le sens de changement climatique parce que l'eau est rationnée. Il n'y a plus suffisamment d'eau et il y a une demande de dévier les eaux de la rivière Kasaï pour amener en Afrique du Sud. Donc il fallait trouver une solution qui va non seulement nous permettre, nous qui avons un problème, parce que ce n'est pas tout de parler des eaux qui vont partir et pour résoudre le problème des autres. Nous avons un problème très sérieux. Avec l'avancée des airs, il y a aussi l'augmentation des niveaux des eaux. Et avec l'augmentation des niveaux des eaux, si rien n'est fait dans le sens de construction de grands ouvrages pour empêcher l'eau à venir nous inonder, parce que nous sommes dans une cuvette, la République démocratique du Congo va se retrouver sous les eaux. On sera tous aquatiques plutôt, à hauteur quasiment de 85%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la NASA. Donc il faut tout faire, non seulement pour résoudre le problème, arrêter l'avancée des airs, de l'autre côté, il y a le projet de la construction de la muraille verte qui a échoué. Les autres disent que les études n'ont pas été bien menées. L'évidence est que quand vous plantez, il n'y a pas d'eau pour arroser vos arbres, avec toute la bonne volonté du monde, rien ne va donner.
Rien ne va donner.
C'est ça,
alors, Monsieur François, déjà sur Internet, sur la page Facebook de l'émission Okapi Service, les auditeurs, les internautes réagissent. Par exemple, là, je vais lire la réaction de Daniel. Il dit un sujet, ce sujet a été déjà discuté plusieurs fois. Pour moi, ce transfert sera avantageux aux Tchadiens. Mais il faut savoir qu'après ce transfert, quels seront les inconvénients pour la RDC. Est-ce qu'il y aura un filtre au niveau des tuyauteries afin que les poissons de la RDC ou nos richesses ne puissent pas passer de l'autre côté? Alors, pour lui, il faut que ces experts trouvent des bonnes mesures de transfert de l'eau empêchant le passage de nos richesses aquatiques vers l'Ubangi. Ça, c'est Daniel qui nous l'a dit. Il nous a écrit sur Facebook. Une réaction par rapport à son point de vue.
Ben oui, c'est vraiment intelligent et j'apprécie beaucoup. Le problème, c'est que je n'aime pas trop parler de moi-même. Pour traiter le problème du transfert des eaux, à mon avis, à mon humble avis, il y a besoin de réunir d'abord trois qualités. Être quelqu'un qui a connaissance du dossier, il faut avoir de l'expérience et il faut avoir de la matière. Donc, le problème, sur le plan politique, moi je suis un ancien secrétaire général au niveau d'un parti que je ne vais pas faire la publicité ici, dans notre pays, j'ai l'expérience politique. Il y en a besoin pour traiter le dossier de transfert des eaux. Il y a le problème technique. Je suis président du conseil d'administration honoraire de la régie des eaux. Et là, je parle sur le plan technique. Nous avons la technicité, l'expertise de la régie des eaux en a pour permettre à ce que nous puissions transporter par pipeline. Parce que ça, c'est la nouveauté, en fait. Ce n'est plus le projet de transfert des eaux de l'Ubangi vers le lac Tchad. Ça a été enterré.
Donc,
c'est ce que j'étais en train de vous expliquer.
Oui, c'est un projet, on ne doit même plus en parler.
Non, on n'en parle plus. Transaqua, d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne, il y avait l'avis défavorable pour sa réalisation, parce que Transaqua est porté par la firme Bonifica, qui est italienne dans l'Union européenne. Le Parlement européen avait dit que c'était nocif par rapport à sa dimension écologique. Vous comprenez?
Mais certains disent que l'eau c'est une denrée, un bien commun. Pourquoi ne pas partager avec les autres?
Pour revenir sur ce que nous étions en train de parler par rapport à l'internaute, nous n'avons pas dit non par rapport à ce qui a été demandé, l'eau. On n'a pas demandé les poissons, on n'a pas demandé nos richesses. Et pour le faire, nous avons proposé avec le projet Voula, qui a été retenu à Abuja devant les chefs d'État et de gouvernement du bassin du lac Tchad, qui était présenté en alternative du projet de Transakwa et de Paerchina pour amener les eaux avec Sima par un canal, ce projet est enterré. Je souhaiterais que les internautes et les auditeurs puissent retenir cela. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller tuer un cadavre qui est déjà mort. Vous comprenez ? Donc ce projet-là n'existe plus. Le projet qui est retenu sur le plan international aujourd'hui, c'est le projet Voula, qui parle d'exportation des eaux, donc la vente de nos eaux par pipeline, par tuyau. Ça veut dire ce que fait la régie des eaux au niveau national. Et à ce niveau-là, nous n'allons
alors
pas...
Alors, est-ce que devons-nous vendre nos eaux ici, alors que déjà au niveau interne, il y a encore des besoins qui ne sont pas satisfaits en termes d'approvisionnement en eau potable?
Je reviens encore sur la question de l'internaute, si vous me permettez.
Oui.
Et on peut ouvrir la parenthèse. Hein. La difficulté est à ce niveau-là. La régie des eaux est chargée de traiter l'eau brute que nous avons dans nos cours d'eau, y compris le fleuve, parce que est fleuve par le simple fait que ça se jette dans l'océan, c'est un cours d'eau. Nous captons l'eau de Lukunga derrière vos stations ici, que nous amenons, nous traitons. C'est dans le milieu urbain, ça c'est la régie des eaux. Et SNHR, c'est pour le milieu rural, vous comprenez ? Mais il y a une dimension qui n'est pas prise en compte par notre pays, la dimension de l'exportation de cette denrée rare qui peut nous amener la guerre. C'est à ce niveau que se pose le problème actuellement. Vous comprenez ? Donc, la régie des eaux a des problèmes, c'est vrai. Je suis là pour en parler. J'ai été, comme je viens de le dire, et je garde un très bon souvenir. Nous avons des grands techniciens au niveau de la régie des eaux. C'est pas la même chose. Les quantités dont on a besoin pour répondre à la demande domestique n'est pas les mêmes quantités, n'est pas les mêmes produits que nous avons pour aller arroser le désert, ou qui est en train de perdre 40 000 km² de terre fertile chaque année à cause du changement climatique, à cause du manque d'eau. En arrosant cela, on va obtenir à ce qui est, ne fût-ce que les herbes fortes qui vont pousser, et ça pourra servir de pâturage pour sédentariser les peuples pasteurs qui viennent, le cas de Mbororo, venir chercher le pâturage, donc à manger pour leurs bêtes, pour que tout le monde comprenne, leurs vaches et tout ça, chez nous, avec armes et munitions, parce qu'on ne peut pas passer à une ambassade pour demander le visa pour sa vache. Vous comprenez ?
Oui.
Mais il faut les sédentariser. On va les sédentariser comment ? C'est avec l'eau brute.
Il faut exporter. Donc, il y a ce projet-là d'exportation des
pipelines. C'est le projet par pipeline. Le grand tuyau, avec l'avantage d'utiliser l'énergie de Inga couplée à l'énergie solaire, parce que c'est dans les pays désertiques, que ce soit au nord, que ce soit au sud, on va profiter.
Mais est-ce que le lac Tchad ne pourra pas aussi profiter de ce projet Voula ?
Justement, le projet Voula va amener non seulement la sédentarisation des peuples dans leur milieu naturel pour nous éviter la guerre,
oui,
parce qu'il y aura le pâturage et les gens auront accès à l'eau, qui est l'eau brute. De l'autre côté, les besoins domestiques seront satisfaits par leur, pour être terre à terre aussi, leur régie des eaux, vous comprenez, qui va ponctionner une quantité pour traiter et rendre
disponible. Je reviens à vous, nous avons les auditeurs qui appellent, qui voudraient également vous poser des questions. Jonas nous appelle des Kananga, Omer est à Arou, Jérémy Mwamba à Lubumbashi. Des questions et préoccupations, composez les 081-890-6394.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Quels sont les préalables à réunir avant le transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad, On va accueillir Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Merci. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Naturellement, le lac Tchad avait une quantité d'eau suffisante. Mais aujourd'hui, on cherche à la ravitailler parce qu'il y a déjà diminution possible. Bon, avant de ravitailler le lac Tchad, est-ce qu'on a étudié les conséquences qui peuvent découler lorsqu'on va prendre l'eau de la rivière Oubangui pour ravitailler le lac Tchad? Donc, quelles seront les conséquences pour les populations qui habitent le long de la rivière Oubangui? Et en plus, qu'est-ce qui a causé la baisse sensible de l'eau du lac Tchad et lorsqu'on cherche à le ravitailler? Et les mesures qui seront prises pour qu'on ne retombe plus dans le même cas? Et le préalable, je vais demander à l'invité, est-ce que, moi je parle en termes d'utilité, lequel entre la rivière Oubangui et le lac Tchad, lequel des deux est en train de servir davantage ou de fournir des intérêts au peuple congolais? Voilà les préoccupations que je m'ai passées par ce message aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci à Jonas.
De répondre au fur et à mesure.
Non, on va d'abord les prendre tous les trois et ensuite vous allez répondre. Okay, Omer nous appelle depuis Arou. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité.
Omer, vous êtes à Arou. Quelle est votre question?
Ma préoccupation est que, en tout cas, je ne suis pas d'avis avec les systèmes de déviation de rivière Oubangui vers le lac Tchad. Je voudrais plutôt soutenir l'idée, par exemple, de système d'utilisation de pipeline, parce que, comme le vité venait de dire, vous savez que nos ancêtres ont été atterrés là-bas au risque de susciter leur colère et la colère des dieux. Bon, comme préalable, je voudrais d'abord dire, avant tout, quand on essaie de faire le tour de l'ensemble de notre territoire, partout, on n'est pas servi en eau potable, par exemple. Avant de faire face nier, qu'on puisse d'abord servir tous les territoires pour que toute la population puisse en bénéficier. Hein. Après, on va passer à d'autres pays après. Je crois que c'est ça ma préoccupation.
Merci. Merci Omer depuis Arou. Jérémy Mouamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour également à l'invité avec vous. Je pense que...
Quelle est votre question, Jérémy?
Oui, oui, Monsieur Jody, je ne peux pas comprendre un seul instant parce que, vous savez, d'abord, hein, la politique quant à la gestion des eaux ici, dans notre pays, est presque au point mort. Et en plus, la fourniture c'est-à-dire la fourniture d'abord pour nous qui sommes population est presque en berne. Comment voulez-vous à cet instant qu'on puisse procéder par ce transfert des eaux aussi longtemps d'abord les besoins ici au pays semblent ne pas tourner comme il se doit? Moi je pense que les législateurs peuvent... Je pense que ce sujet est déjà débattu, je ne sais pas, à l'Assemblée, mais ça n'a pas trouvé gain de cause. Moi, je pense que il serait impérieux d'arrêter cette procédure et chercher à chercher peut-être d'autres solutions que celui-là, parce que moi, je trouve que dans notre pays, nous devons d'abord chercher à mettre sur pied cette politique d'abord qui peut d'abord suffire d'abord à toutes les... qui peut profiter à toute la population dans la suffisance. Donc, en eau et à ce moment-là, on peut penser créer une brèche s'il faut coopérer avec les Tchad dans ces transferts d'eau. Moi, je pense que, comme j'ai entendu là l'intervenant parler, la solution pour les captages peut-être serait la bienvenue, mais il y a toujours des problèmes qui se posent parce que notre pays, au jour d'aujourd'hui, n'arrive pas d'abord à gérer, à mettre sur pied cette bonne politique pour gérer. Nous sommes ici partout, même à Lubumbashi, qui est considérée comme la deuxième ville de la RDC. Mais je vous assure que la population souffre sans eau pour avoir de l'eau. Il y en a qui se lèvent le matin vers 4 heures pour chercher de l'eau. Mais comment? Nous avons beaucoup de rivières, mais on n'arrive pas d'abord à mettre sur pied une bonne politique. Comment voulez-vous que nous puissions procéder à ce transfert aussi longtemps que les problèmes se posent dans notre pays? Moi, je pense que le point serait d'abord de chercher à ce que la population dans la, nous qui sommes population, nous puissions d'abord être servis avant de penser à autre chose.
D'accord. Donc, merci, Jérémy. Merci, Jérémy Mwamba de Lubumbashi. On va donner la parole à notre invité. Monsieur François, vous avez suivi les différentes préoccupations.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Comme on dit, l'Est fait, du moins, dernière entrée, première sortie.
Oui.
L'IFO chez nous. Ah, ça veut dire il y a un problème sérieux de communication. Le monsieur qui vient de parler de Lubumbashi, j'apprécie beaucoup. Ça me donne l'occasion de pouvoir déplorer le manque de communication. Pourquoi? L'Assemblée nationale a fait son travail et nous a donné une loi qui a été promulguée par le chef de l'État en 2016. C'est la loi relative à l'eau. Et quand on voit ces articles à partir de 23 jusqu'à 40, ça prévoit justement la commercialisation des eaux brutes. Vous comprenez? Donc là, sur le plan politique, c'est déjà un acquis pour notre pays. Nous sommes dotés d'un instrument juridique important qui peut aujourd'hui servir à ce que la déclaration du chef de l'État soit mise en œuvre. Deuxième élément, on parle de la politique pour savoir pourquoi aujourd'hui à l'intérieur il y a des difficultés, même nous à Kinshasa. Je vais vous donner juste un exemple parce que je ne vais pas entrer encore là-dedans. J'ai dit que je ne suis plus à la régie des eaux. J'apprécie beaucoup le temps que j'ai passé là-bas et le travail qui est en train d'être fait. Pour simple exemple, parce que là on parle de la politique, nous avons eu des difficultés à obtenir à l'époque 2 millions de dollars pour permettre à ce qu'on puisse assainir le milieu à l'intérieur du pays où se trouve la régie des eaux dans les milieux urbains. Mais j'étais très heureux d'entendre que la nouvelle politique a débloqué en moins de 15 jours, en moins de 10 jours d'ailleurs, et là je félicite son Excellence Monsieur le Président de la République et le ministre du Budget Pierre Kangoudia, 18 millions de dollars.
Pour assainir les rivières.
Pas les rivières,
oui.
Pour assainir le réseau, parce que le monsieur
de la régie des eaux,
en train de revenir sur la préoccupation qui est partagée par nous tous. Hein. Nous avons
besoin d'abord le besoin domestique.
Oui.
Avant
sur le plan
les
politique, le chef de l'État venait d'apporter un coup de pouce important à hauteur de 18 millions de dollars pour permettre à la régie des eaux d'améliorer la desserte à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est déjà sur le plan politique quelque chose d'important à savoir, en plus du fait qu'il y a la loi qui nous permet aujourd'hui, la loi relative à l'eau, c'est accessible au niveau du journal officiel. L'article 26 nous donne les conditions pour pouvoir organiser cette distribution. Ça, c'est le terme, on peut dire technique, cette vente.
Alors, avant d'envisager l'exportation des eaux de la RDC, donc c'est tout à fait normal,
voilà.
Il faut d'abord satisfaire les besoins domestiques.
Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Pourquoi? Je dis tout à l'heure, il y a un déficit, il y a un manque. Donc, nous devons avoir les trois secteurs. Nous avons une organisation qui s'occupe de l'eau potable dans le milieu urbain. C'est la régie des eaux. Nous avons dans le milieu rural le SNHCR qui s'occupe de l'eau potable pour le milieu rural. Mais il faut avoir de l'argent, papa. On venait de parler. J'ai fait la comparaison. De 2 millions à l'époque, on avait sué sérieusement. Mais aujourd'hui, à moins de 10 jours, il y a 18 millions. Mais c'est l'argent. Où est-ce que la République va trouver l'argent pour accorder la priorité seulement à l'eau? C'est à la vente de cette eau-là. C'est ce volet
donc,
qui manquait.
Donc il faut la commercialiser pour...
Aujourd'hui, on a besoin de devises. Quand on traite l'eau, on importe l'eau et là je veux aussi remercier la Banque mondiale et pour ne pas les citer, la communauté internationale qui à notre époque venait à notre rescousse pour les produits chimiques, pour le traitement de l'eau. On ne peut pas prendre l'eau de la rivière et amener ça comme ça. Ça doit suivre un traitement. Il faut que les usines soient construites. Nous l'avons fait, nous avons l'expérience avec ça au niveau de Lukaya ici à Kinshasa. Ça coûte les yeux de la tête. Donc il faut avoir de l'argent. Pour que l'État ait l'argent dans le domaine dans lequel il veut investir, il faudra qu'on puisse exporter l'eau brute. On ne parle pas de l'eau potable. Parce que l'eau potable, c'est l'eau qui a déjà été traitée.
Voilà.
À partir de là, on l'a avec le groupe Motopompe pour que nous en ayons à nos courantes chez nous. Pour avoir ça, on a besoin d'argent, et beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin de rappeler qu'au Katanga, parce que la préoccupation vient du Katanga aussi, qu'aujourd'hui les mines ne rapportent pas à 100% dans les caisses de l'État. Il ne faut pas se cacher son visage derrière son petit doigt. Mais l'eau aujourd'hui, l'État n'aura aucune concurrence. C'est là où se trouve notre préoccupation. L'État n'aura aucune concurrence parce que la SNEL exporte l'électricité qui est produite à partir du fleuve Congo. Ce que je voudrais dire est que si nous ne prenons pas garde aujourd'hui pour construire ne fût-ce que le mur naturel, muraille verte, pour empêcher à ce que le désert avance vers nous, demain nous serons dans la même situation que la situation du lac Tchad. C'est le changement climatique. Il y a plus suffisamment d'eau. Il y a plus suffisamment de pluie. Figurez-vous que l'eau que nous cherchons à retenir chez nous, chaque seconde, nous la voyons descendre dans l'océan Atlantique. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on nous appelle fleuve. Ça descend dans l'océan Atlantique, personne ne retient ça. C'est 40 000 mètres cubes par seconde. Mais ça revient vers nous sous forme de pluie que 3 siècles après. Et pourtant, quand vous arrosez, nous n'avons pas les systèmes d'arrosage ici. Même quand vous arrivez dans nos maisons ici, vous allez voir ceux qui ont l'avantage d'avoir des jardins, ils arrosent avec l'eau de la régie des eaux. C'est une aberration. Vous comprenez?
Alors, on ne devait pas le faire.
On ne devrait pas le faire parce que l'eau, c'est l'eau qui nous a coûté très cher. C'est pour les besoins de papa, maman, les enfants. Vous comprenez? Pour arroser, c'est l'eau naturelle. Quand il pleut, on ne peut pas boire de l'eau qui coule, qui est des ruissellements. Ça, c'est pour la végétation. Donc, voilà un tout petit peu. Quand nous parlons d'exportation des eaux, c'est pour permettre à ce que l'État, en plus du fait de la sécurité pour notre propre pays, que soit la sécurité dans le terme classique des mots, ou la sécurité par rapport à la nature. Donc il faut empêcher à ce que le désert nous rattrape ici et que nous puissions nous retrouver sous les eaux.
C'est là, donc la solution, c'est d'exporter les eaux de la RDC, les eaux brutes, par les pipelines, ce que vous avez appelé les pipelines.
Comme nous avons été soutenus par l'intervenant qui a précédé celui de Lubumbashi, par pipeline. C'est vrai qu'il faut prendre des dispositions. C'est la raison pour laquelle nous disons que, avant toute chose, il faut savoir qu'est-ce que la loi dans notre pays dit. La loi prévoit, comme préalable, les études. Il faut que les études soient menées et avoir des résultats. Aujourd'hui, c'est difficile pour les organisations comme les nôtres d'avoir du financement. Nous n'en avons pas. C'est au niveau des fonds propres que nous avons réalisé la pré-étude. Comprenez? Nous attendons que le chef de l'État, aujourd'hui, qu'il a déclaré à Kigali le 27 mars, en faveur d'exportation des eaux par pipeline, qu'il aille beaucoup plus loin, pour endosser le projet Voula, qui a été accepté par ceux qui sont appelés à acheter l'eau. Et eux, de leur côté, ils ont déjà fait un effort avec la réunion de Niamey.
C'est un projet du gouvernement congolais, le projet Voula.
Si vous me permettez, c'est... Les bénéficiaires potentiels, eux, ils avancent. Ils sont déjà arrivés au niveau de réunir 400 milliards d'euros à Niamey. C'était le 25 mars. Pour avoir la capacité de pouvoir acheter les eaux.
De cette année ou de l'année dernière?
De cette année.
De cette année même.
De cette année, c'est l'information que je donne. Chacun peut consulter l'Internet. La réunion de Niamey vient de sortir. Vous comprenez? Mais nous avons pris du retard. Pourquoi? Parce que nous sommes une structure privée. C'est une organisation non gouvernementale. Nous avons travaillé avec le gouvernement. Malheureusement, le gouvernement n'a pas permis à ce que l'information atteigne le chef de l'État qui vient de partir. Nous l'avons regretté. Mais l'actuel, sachant bien qu'il s'est prononcé là-dessus, ces questions qu'il voit, nous avons déposé les dossiers sur son bureau.
Est un projet de l'ARD, de votre structure.
De notre Centre international de recherche.
D'accord.
D'études et prévention sur les catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique.
Je reviens à vous, le temps d'accueillir un auditeur, l'ingénieur Mangoyo qui est à Kinshasa. Ingénieur, bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi.
On vous écoute.
Merci, monsieur Jordi. Moi, j'ai 3 préoccupations,
Lesquelles?
Bon, moi, je suis pas totalement d'accord avec l'expert qui est au studio là. Je voudrais lui poser, je voudrais partager avec lui trois préoccupations. Mmh. Je l'ai suivi quand il dit que la meilleure façon de... Je suis d'accord avec la loi qu'on a votée là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a plein de lois dans notre pays. Mais je crois que ces lois-là, en général, n'ont jamais été bien appliquées. Ça, je n'entre pas dans ces jeux-là. Je voudrais seulement lui demander ceci. Il dit que nous devons exporter l'eau, nous devons vendre parce que il a été à la régie des eaux. Et la régie des eaux m'a donné manqué 2 millions, tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes avec 18 millions, tout ça. Moi, je voudrais lui demander ceci. Nous avons une autre entreprise du secteur énergétique, pour ne pas la citer, la SNL. Nous exportions, je ne sais pas si c'est jusqu'à présent, on continue à vendre l'énergie au Congo-Brazzaville. Il a suivi à l'époque ce qui s'est passé. Est-ce que cet argent-là profite aux entreprises du portefeuille de l'État? Tout le monde sait ce qui s'est passé avec le détournement des fonds de l'énergie vendue au Congo-Brazzaville. Il le sait. Est-ce que son intervention, ce n'est pas un appel de pied pour que demain, qu'il puisse être branché ainsi de suite? Ça, c'est deuxième préoccupation. Troisième préoccupation, il dit ceci, pour éviter la guerre ainsi de suite. Est-ce que si aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique avaient de l'eau en abondance, alors maintenant, il y a des gens qui veulent prendre l'eau aux États-Unis d'Amérique. Pour éviter la guerre, il faut être là, non? Il faut leur donner pour éviter. Est-ce que nous ne pouvons pas organiser tout? Parce qu'il faut qu'on ait une armée forte. Parfois, il faut résister. Nous pouvons résister aussi, notre armée est forte. Nous disons non, non, et nous avons des potentialités. On peut prendre dans notre secteur l'argent pour financer, par exemple, les secteurs énergétiques, notamment la régie des eaux. Pourquoi, oui. Pourquoi seulement l'argent qui proviendrait de la vente d'eau et pour financer la régie des eaux? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Donc,
2 millions, 18 millions, ça fait quoi?
Vous n'êtes pas d'accord avec ce projet d'exportation par pipeline des eaux de la République démocratique du Congo?
Je ne suis pas d'accord, Jordi, parce que ce ne sont pas les Mbololo qui viennent nous faire pression ici parce qu'ils n'ont pas l'eau là-bas pour faire le pâturage de l'air, tout ça. Nous devons nous plier à l'air. Non, nous devons renforcer notre service de sécurité et renforcer notre armée pour résister quand même. Nous sommes un grand pays.
D'accord, merci ingénieur Mangoyo de Kinshasa. Nous, un instant, on va accueillir un autre auditeur, Malonga de Bandundville. Monsieur Malonga, bonjour.
Bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent.
Alors, nous parlons des préalables à réunir avant le transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Voilà. Monsieur Malonga, il y a beaucoup de bruit là où vous êtes.
Oui, ici il pleut, hein, il pleut. Je suis dans une maison, il pleut.
Ah, il pleut abondamment à Bandundville. D'accord, allez-y.
Ok, ça va. Bon, en tout cas, le préalable d'abord, pour moi, je vois qu'il faut le référendum. Un référendum pour ça, pour que le peuple congolais, les responsables de ces eaux-là, décident. Si nous décidons que c'est oui, il est parti. Si ce n'est pas comme ça, c'est ça. J'ai bien entendu notre invité. En tout cas, il nous informe très très bien, suffisamment, de ce qu'ils ont fait là au Tchad. Mais j'avais suivi aussi une déclaration tchadienne qui disait que les Congolais, qu'ils veulent et qu'ils ne veulent pas, les eaux de la rivière Oubangui vont servir des cas d'essie. Alors, lorsque j'avais entendu ça, j'ai dit qu'en tout cas, c'est notre guerre que l'opinion internationale nous prépare. Vous savez, je dis, nous sommes toujours victimes de l'opinion internationale. Malgré ça, c'est pas chez lui, mais c'est déjà programmé ailleurs, en dehors de nous. Vous voyez que, pour ne pas répéter ce que mon confrère vient de dire là, Emmanuel, notre courant est servi partout ailleurs. Mais qu'est-ce que nous, les Congolais, nous profitons de ça? Il n'y a rien. Est-ce qu'en vendant nos noms, c'est par là où nous allons profiter quoi? C'est rien. Ça, ce sont des ruses. Qui veulent dominer nos autorités, et ça. En tout cas, je demande à l'excellence président qu'il ne commence pas là-bas. Il commence à ce qui est préoccupant.
D'accord, merci. Merci.
Pardon, jeudi.
D'accord, allez-y.
Je vais demander encore, et je vais proposer à notre invité.
Oui.
Oubangui, c'est notre loup, c'est propre à nous. Il y a des eaux internationales. Est-ce que le Tchadien, ou bien l'opinion internationale, là, il ne pèse de pas exporter les eaux de la mer Méditerranée, ou bien de l'océan, hein, pour former un endossoir de la Tchad? Pourquoi seulement il s'intéresse de la rivière Oubangui? Ça, il peut aussi donner cela. Ce sont les eaux internationales. Mais prendre nos noms, en tout cas, c'est bien. Ce n'est pas logique. Heureusement, l'invité a bien expliqué. Il y aura le transfert de nos richesses. Tout ça, nos vieux et nos ancêtres étaient enterrés là-bas. En tout cas, nos forces aussi.
D'accord. Sont transformées. D'accord. Merci.
Là, c'est non.
Non, c'est non. Merci, monsieur Malonga de Bandeville. Monsieur François Akalulé.
Oui. Je suis très content de savoir que ça commence déjà à avancer. Les gens jusque-là croient que nous sommes encore à l'époque des transferts des eaux de l'Oubangui vers le lac Tchad. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas chercher à s'acharner sur un cadavre pour le tuer deux fois.
Mais Malonga a dit tout à l'heure que les Tchadiens avaient dit à l'époque des grès ou des forces, ils vont prendre les eaux.
Ça, c'est le passé. Parce qu'on n'avait pas une alternative à ce moment-là. Vous comprenez, on n'avait pas d'alternative à ce moment-là. Quand nous parlons des eaux de la rivière Oubangui, on va pas polémiquer là-dessus. La rivière Oubangui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la confluence entre la rivière Kibali, qui vient de chez nous, et la rivière Darfour, qui va du Soudan, qui traverse la rivière centrafricaine. Vous comprenez. Nous avons le fleuve ici chez nous, c'est comme un Mamali Kelemba. Nous avons 9 pays avec qui nous partageons les eaux du fleuve Congo. Chacun de ces pays-là peut aujourd'hui faire valoir ses droits sur le plan international de recueillir ces eaux qui sont sur notre territoire à n'importe quel endroit. Mais nous ne sommes pas allés pour ça. Nous sommes allés pour apporter une solution en alternative, donc ça veut dire en remplacement du projet qui était présenté. Et là, nous avons gagné.
Vous avez proposé le projet Voula.
Le projet Voula, voilà. Qui a gagné au niveau de N'Djamena d'abord. Et au niveau d'Abuja, devant les chefs d'État et de gouvernement, il y a eu la proposition américaine parce que c'est un grand business. Ça, c'est question de le savoir aussi. C'est pas seulement le Tchad, quand on parle du lac, entre parenthèses, d'abord, je l'ouvre et je vais la référer très vite. Le lac Tchad n'a que 1,2 mètre de hauteur, de profondeur plutôt. L'eau dont on a besoin, c'est pas seulement pour le lac Tchad, c'est pour le développement du bassin du lac Tchad. Et aujourd'hui, c'est tous les pays du Nord qui en ont besoin. On ne peut pas aller avec un simple canal pour amener les eaux seulement au niveau du lac pour que les mamans aillent encore souffrir une fois de plus avec leurs seaux pour recueillir l'eau. Le projet ne concerne pas que de renflouer le lac Tchad. Le lac Tchad ne pourra pas contenir les quantités dont on a besoin pour que notre pays puisse bénéficier de l'opération. C'est tout le Nord de notre pays, de notre continent et tout le Sud qui en a besoin. Vous comprenez?
Parce qu'il y a le désert qui avance.
Qui avance vers nous. Celui qui est à Kinshasa, je suis très content quand il dit qu'on doit minimiser les histoires de Mbororo. Qu'il fasse le déplacement. Moi, j'ai été à Ango. Pour les gens qui sont au-dessus, ils connaissent. Moi, j'ai vu, quand j'étais tout petit, la rivière Ouéré. Il y avait les hippopotames là-dedans. Mais il faut y arriver aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous n'avons plus suffisamment d'eau chez nous. Le désert est en train d'avancer pour nous permettre d'amener suffisamment de moyens pour la régénération de l'écosystème au niveau du nord et du sud au Katanga de l'autre côté, il nous faut de l'argent. Les Américains sont venus avec le projet Trans-Africa Pipeline pour désaliniser les eaux de l'océan afin de renflouer le lac Tchad et participer au développement de son bassin. Ils ont échoué.
Ça
n'a pas marché parce que la désalinisation amène qu'on soit en face d'un grand déchet, une grande quantité de déchets de sel qui ne sont pas comestibles. Tu comprends? Vous comprenez plutôt, excusez-moi. Et ce déchet-là va amener encore des soucis sur le plan écologique.
Mais donc, ils ont échoué. Certains ont proposé, au lieu de prendre les eaux de l'Oubangui, qu'on aille chercher les eaux du côté de Banana et puis les acheminer.
Mais justement, c'est la proposition sur laquelle nous sommes en train de partager avec ceux-là, en disant il nous faut des études pour capter l'eau, parce qu'il s'agit quand même des eaux douces. Pour capter l'eau, il y a 4 conditions préalables. c'est dans les études. De toute façon, le préalable, c'est les études. C'est la loi qui le dit et on ne peut pas dire qu'on n'applique pas la loi pendant que nous sommes en train de chercher à appliquer la loi aujourd'hui. Et à accompagner le chef de l'État dans sa décision de voir comment répondre à ce besoin qui est crucial pour ceux qui sont de l'autre côté, il faut d'abord voir la profondeur des eaux. L'article 40 de la loi relative à l'eau nous demande que ça soit à 100 mètres de la berge. Pourquoi? Parce qu'il faut voir aussi la profondeur. Là où nous devons descendre avec notre crépine, ça veut dire le tuyau, la tête là, pour aspirer l'eau. Vous comprenez? Il ne faut pas que quand vous avez aspiré, que ça crée une sorte de trou là où vous avez aspiré l'eau. Il y a la vitesse de l'eau. Parce que quand vous avez déjà aspiré, il faut que l'eau puisse être remplacée immédiatement. Vous voyez un tout petit peu. Il faut aussi veiller sur la navigabilité en amont et en aval du lieu de captage. Tout il y a ça, aussi faut, la il salinité.
Il faut des études.
Mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le législateur qui l'a dit dans
pour,
la loi.
Même pour le projet Voula, il n'y a pas encore eu des études à ces sujets.
J'étais en train de terminer ma phrase quand vous avez, avec raison, donné
la parole aux autres.
Oui. Le projet aujourd'hui a besoin des moyens. Les études, quand on le dit, c'est pas les études, même ceux qui envoient les enfants comme nous à l'école aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Vous comprenez?
Il faut des moyens.
Il faut des moyens. Or, ces moyens sont mobilisés aujourd'hui. Le projet Voula a été retenu, non seulement à N'Djamena, a battu les autres projets, y compris les projets de soutirage des eaux souterraines. Vous comprenez? Au niveau des airs. Ont été battus par le projet Voula. Et à Abuja, nous avons eu l'avantage d'être retenus pour obtenir non seulement l'appui politique sur le plan continental, mais aussi l'appui financier. Et Niamey vient de retenir le montant de 400 milliards d'euros pour lesquels nous avons le devoir aujourd'hui de nous mobiliser pour voir comment nous pouvons ponctionner déjà dans cet argent l'argent pour les études.
Vous avez suivi l'ingénieur. Ingénieur Mangoy n'est pas d'accord avec ces projets d'exportation par pipeline des eaux.
Il n'a pas, tous les éléments. D'après lui,
Il a dit tout à l'heure, il y avait ici la vente du courant électrique.
Ça, c'est un problème politique.
Vers Brazzaville, mais là, qu'est-ce que ça a rapporté?
Heureusement qu'il est ingénieur. Lui, il ne fait pas la politique. Moi, je ne suis pas venu faire la politique aujourd'hui. Je l'ai fait à l'époque. Il a dit aussi, il y a un autre qui a dit peut-être que je veux me positionner. Moi, la politique, ça ne m'intéresse plus. Je l'ai fait et j'étais à Sand City. Bon, de toute façon, la politique, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse pas d'être ministre ou que... Non. Je suis passionné par ce travail. Pour moi, la prévention par rapport au danger que court notre pays au cas où on restait distrait.
Parce qu'il y a les déserts, il y a les dangers, les déserts continuent à avancer.
Avancer vers nous. Alors, il faut exporter. Moi, je ne regarde pas le Tchad, je ne regarde pas Sa Majesté, le roi du Maroc, devant qui je m'incline avec beaucoup de respect, qui est venu avec la demande de 17 États du Sahel, au fond bleu, ici en face, à Brazzaville. Quand ils ont entendu parler du projet Voula qui pouvait amener les eaux par pipeline, ils sont disposés à pouvoir l'acheter. Si on était à la télévision, j'allais vous présenter la carte de la prévision de la NASA. Il y a un danger que nous sommes en train de courir et nous sommes distraits.
Et vous dites qu'il faut construire un mur vert. Donc
la muraille verte, c'est la NEPAD. Avec le président Ouad, que je salue avec respect, mais qui n'a pas fonctionné. Nous devons participer. D'accord. Pour la construction de ce mur.
Monsieur François, j'ai
les études, c'est l'argent et l'argent est disponible dès lors que le chef de l'État aura endossé le projet Voula. Ça va déclencher la procédure conformément à la loi relative à l'eau dans notre pays.
D'accord. Nous parlons des préalables à réunir pour le transfert des eaux de la rivière Oubangui vers le lac Tchad avec Monsieur François Kalulé, président du Centre international des recherches d'études et prévention sur les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Nous avons en ligne Pacifique de Lubumbashi, Israël et de Kisangani. Sur la page Facebook de Capi Service, Michel Ouyumbu nous dit depuis Kinshasa. J'estime que la question n'est pas de connaître les préalables pour le transfert des eaux du fleuve, mais d'abord, il va falloir mener une étude d'opportunité de ce projet. Puis viendra une étude de faisabilité du projet et enfin une étude alternative entre le transfert des eaux et les transports de l'énergie électrique d'Inga pour le traitement de l'eau de l'océan Atlantique en vue de résoudre le stress hydrique du lac Tchad. C'est la réaction de Michel Ouyumbu depuis Kinshasa Pacifique. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody.
On n'a plus beaucoup de temps, alors un peu de mots. Quelle est votre réaction, quelle est votre préoccupation?
Oui, oui, tout de suite là, Jody, je dirais que l'intervenant, l'invité a tout à fait raison, parce que il y a deux phases dont la population n'a pas compris, c'est-à-dire la communication devait, en principe, et la sensibilisation devait faire son travail réellement. Nous ne sommes pas à la première étape où il fallait ravitailler les lacs Tchad. Ça, ce n'était pas possible parce que nous devions même perdre les poissons. Donc, ici, les transferments de ces eaux-là, pour éviter l'avancée de la désertification qui peut aussi nous causer des problèmes, est très important. Quand on parle de pipeline, donc nous n'aurons pas de poissons à transférer là-bas. Nous aurons également des moyens, vous voyez. Je crois bien qu'il faut une étude minutieuse avant de prendre cette décision-là, qui va mettre tout le monde d'accord sur certains faits.
Merci. Alors, merci Pacifique. Merci Pacifique. Désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Israël de Kisangani, bonjour.
Bonjour Jody, merci pour m'avoir associé à ce débat.
Quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. D'abord, je vous fais une proposition. Ne parlez plus de transfert des eaux des lacs et du fleuve Oubangui vers le lac Tchad. L'invité a déjà parlé du projet Nkoula. Et moi, je trouve que ce projet-là est valable. Mais je voudrais poser la question à l'invité. Est-ce qu'on a mené des études pour voir si l'écosystème de nos eaux, du coco ici, quelle sera la réaction du contact entre l'écosystème de notre eau et l'eau du lac Tchad? Est-ce que ça ne va pas nuire à l'écosystème de lac Tchad? Voilà ma question.
Merci. Maître Gaston, vous êtes à Kananga, on termine avec vous rapidement. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, j'ai juste une réaction. Je voulais dire à l'invité qu'aujourd'hui, notre forêt alimente tout le monde entier. Les divisions, la population ne se retrouve pas sans assez. Et je pense aussi qu'avec de l'eau, lorsque nous ne faisons pas une chose, nous ne faisons rien avec, il faut donner de telle sorte que ça puisse produire. Si ce qu'on veut faire là, il y aura des retombées sur le plan interne ici, il y aura des dividendes qu'on peut gagner. Moi, je trouve pas le mal, mais il faut veiller à ce que s'il y a quelque chose qu'on peut gagner, ça puisse être alloué aux besoins de la population, aux besoins sociaux.
D'accord.
Que de voir certains politiciens qui pouvaient
s'enrichir avec ça.
Beaucoup de profils.
Oui, merci. Oui. Merci Gaston de Kananga. Alors, M. François, oui. On n'a plus beaucoup de temps. On va terminer dans 3 minutes exactement.
Oui, oui. Je vais tout de suite. Oui. Remercier le bon Dieu du fait que nous sommes en train de chuter sur bon aéroport.
Ça veut dire
donc
qu'on
les trois derniers,
que...
oui, je crois, montrent déjà que la communication est passée.
Oui.
Merci pour Radio Okapi.
Donc cela veut dire que d'abord, dire. Le projet de transfert des eaux vers le Tchad, ça c'est enterré. Vers le Tchad, le lac
ça,
Tchad.
Ça c'est enterré.
Ça on n'en parle
enterré,
plus.
On n'en parle plus.
Voilà, il y a donc, plutôt, par ailleurs, il y a un autre projet.
C'est le projet Voula.
C'est le projet Voula.
Voilà.
Voilà.
Et avec ce projet Voula, j'ai beaucoup apprécié les trois derniers intervenants. Primo, il y a celui qui a parlé en dernier d'ailleurs, que nos forêts ne nous bénéficient pas. C'est parce qu'on n'a pas de projet. Il y a un problème très sérieux d'incapacité d'absorption des capitaux qui viennent chez nous, des financements. On ne vient pas avec l'argent pour dire, bon, prenez, faites-en ce que vous en voulez. Vous devez avoir des projets. Quand il y a un projet, il y a le financement en face. C'est comme ça que vous allez y accéder. Et il faut savoir aussi quelles sont les conditions pour accéder à ces financements. Ça, c'est le premier élément. Aujourd'hui, avec le projet Voula, qui est un projet qui est déjà accepté sur le plan international, avec l'endossement de ce projet pour que ça devienne un projet de l'État congolais, nous aurons accès au retour d'abord de ce que les autres consomment venant de nos forêts, ça veut dire notre oxygène. Parce que c'est le fonds climat qui mobilise cet argent. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième élément, qui est encore beaucoup plus intéressant, nous revenons toujours sur les études. Pour faire les études, il faut les moyens. Or, avec l'endossement du projet, nous allons avoir les moyens nécessaires pour organiser les études à partir de chez nous. Les études ne seront plus faites à l'étranger. Le testament que nous a légué notre regretté Premier ministre Patrice Lumumba, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais au Congo. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il serait souhaitable que nous puissions réfléchir à ça. Je ne suis pas candidat ministre, je n'ai pas été candidat député. Mmh. Moi, mon travail, le bon Dieu m'a fait grâce que ça soit ça, et ça me plaît beaucoup, c'est de voir comment travailler dans la prévention, qui n'est pas du reste prévue dans tout ce qui est lutte contre le changement climatique. Parce que le changement climatique, aujourd'hui, les gens parlent de l'atténuation, parlent de l'adaptation. Personne ne parle de la prévention. Or, la prévention, quand vous voyez toutes les cartes, il n'y a que l'Afrique qui peut aujourd'hui parler de la prévention parce qu'on a besoin de cet argent pour prévenir au lieu d'attendre.
Monsieur François, nous retenons en terminant cette émission qu'il faut des financements pour mener une étude sérieuse par rapport au projet. Vous là, le projet de d'exportation des eaux de la RDC par pipeline. Voilà.
À partir de peu avant l'embouchure du fleuve Congo.
Du fleuve Congo. On aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Monsieur François Kaloélé, je rappelle que vous êtes le président de l'ARD CIREP, qui est le Centre international des recherches d'études et prévention sur les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Mais je suis très heureux et je vous félicite encore parce que je sais quoi dire. Merci beaucoup et félicitations pour tout.
À la prochaine.
Merci.